Bonjour, merci beaucoup à Malina Mestre et à Philippe Meunier, vous m'entendez? Oui. Pour votre invitation. Et ça me fait très plaisir d'être ici, d'autant plus que c'est la première fois que je me retrouve à Lyon et à l'École normale supérieure de Lyon. Ce que j'ai entendu tout à l'heure m'inspire une petite remarque sur la date de 1637-1638 en France. 1637, c'est la publication du discours de la méthode de Descartes, et 1638, parce que, après 23 ans de mariage, Anne d'Autriche est enfin enceinte, le roi Louis XIII décide de consacrer son royaume, le royaume de France, à Notre-Dame. Un élément politique, un élément religieux, un élément philosophique, dans la même temporalité, dans une temporalité qui pourrait les rendre contradictoires. Et c'est un peu ce que je vais vous dire, parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure va peut-être vous choquer avec ce que je vais vous dire. Et il faudrait essayer de comprendre que cette période de Charles II, il faudrait essayer de comprendre les données conjointes que l'on va avoir au fil de cette journée. Il faudrait les concevoir non pas contradictoirement, mais simultanément. Il n'y a pas deux âges de l'intelligence. On peut porter les deux poids de la balance équitablement à cette époque-là. On en reparlera sans doute. Je commence. L'éloquence sacrée sous le règne de Charles II ne peut pas rivaliser avec les grands noms qui ont illustré le genre sous les règnes de Philippe III et de Philippe IV. Le père Jerónimo de Florencia, le père Manuel de Nájera et surtout Hortensio Félix Palavicino, tous trois prédicateurs des rois d'Espagne, n'ont pas eu de successeur aussi talentueux dans cette tâche importante qui consiste à célébrer la grandeur du monarque et de son règne. Quand Manuel Nájera prononce l'éloge funèbre de Philippe IV en 1665, le genre est bien installé dans les habitudes de la cour et du royaume, et c'est à partir des modèles des prédicateurs que nous venons de citer que les champions de l'éloquence sacrée du règne de Charles II composent leurs oraisons. La célébration de la mort d'un roi est un acte à la fois religieux et politique, mais les empiétements du religieux sur l'espace spécifiquement politique sont constants et inévitables dans l'Espagne catholique de la fin du XVIIe siècle et ne permettent pas d'appliquer une grille contemporaine discriminante sur la lecture des sermons funèbres entre ce qui intéresserait l'historien des faits politiques et ce qui intéresserait un spécialiste du sentiment religieux. Quand le roi meurt, c'est certes le souverain d'un État qui trépasse, mais c'est aussi par délégation spirituelle. « Los reyes en la tierra ocupan el lugar de Dios », écrit un prédicateur de l'époque, une sorte de vicaire du Christ duquel il reçoit l'autorité temporelle pour régner sur ses sujets. C'est enfin et peut-être en premier lieu un baptisé de l'Église catholique qui rend son âme à Dieu. Au cours de la cérémonie, l'oraison funèbre doit en quelque sorte tisser un réseau complexe entre l'hommage politique, réduit à sa plus simple expression dans le cas de Charles II, et l'hommage aux vertus chrétiennes qui se sont incarnées dans la vie du prince. C'est aussi le mélange du privé, autant qu'il est possible de parler de privacité pour le roi, et du public qui traverse l'éloge funèbre, le but étant de consoler la cour et ses sujets de la perte d'un si grand roi, et d'édifier les fidèles par l'exemple d'un si grand chrétien. La mort du roi est donc célébrée à la cour comme dans les villes du royaume, par tous les corps constitués, à commencer par la chapelle du roi, les paroisses de Madrid, les couvents de Madrid, les chapitres des différentes cathédrales, les universités, les ordres religieux, le Saint-Office, d'autres institutions dont les conseils, mais aussi les autorités civiles locales qui occupent la dernière place. On a du mal à s'imaginer le nombre de sermons qui sont prononcés dans les jours, voire les semaines qui suivent le décès. À la cour d'Espagne, on aime aussi les messes anniversaires des morts des rois et des reines, qui donnent lieu à d'autres oraisons funèbres dans les années qui suivent. C'est la maison du roi qui communique le décès et charge les différentes autorités de l'organisation des cérémonies. Ce n'est donc pas un petit honneur ni une mince responsabilité qui sont faites aux clercs de prononcer une oraison funèbre. L'histoire de Fray Hortensio Félix Palavicino, prédicateur préféré de Philippe IV jusqu'à sa mort en 1633, je parle de la mort de Palavicino, en donne la preuve. C'est devant le tout jeune roi Philippe IV qu'il prononce l'oraison funèbre de Philippe III, son père, en 1621, puis, 4 ans plus tard, son panégyrique, dont la qualité littéraire, le style et aussi la construction serviront de modèle et de référence pour les oraisons futures. Sur ce point, il y a une réelle continuité dans l'histoire littéraire. Palavicino, taxé de son vivant de gongorisme, exporte dans l'éloquence sacrée les ressources stylistiques du poète cordouan. Les plus célèbres de ses sermons, prononcés entre 1615 et 1633 à Madrid, sont publiés en 1695 à Madrid. Sa postérité se prolonge très largement au-delà du règne de Charles II, et l'on peut dire même que l'éloquence sacrée ne changera véritablement qu'à la mort de Philippe V en 1746. Pour des raisons qui ont autant à voir avec la personnalité du premier Bourbon d'Espagne qu'avec les changements dans les canons littéraires de l'éloquence. Les sermons que nous avons choisi de présenter offrent en commun des topoi sur le roi Charles II, dont les plus remarquables sont sans doute ceux qui sont attachés à sa piété et à ses dévotions particulières. C'est ce que nous allons rapidement évoquer en insistant d'une part sur la rhétorique d'inspiration religieuse et plus proprement liturgique qui préside à ses oraisons funèbres, et ensuite sur les dévotions décrites et mises en scène dans ces oraisons en question. Nous sacrifions d'autres aspects non moins intéressants comme la langue et le style des sermons. Après notre analyse centrale, cependant, nous reviendrons sur des aspects plus littéraires dans le but de tracer une évolution du panégyrique et de l'oraison funèbre jusqu'à la mort de Philippe V en 1746. Les oraisons funèbres suivent un double mouvement qui va de la déploration pour la mort de Charles II à la consolation que représente l'avènement d'un nouveau roi et d'une nouvelle dynastie. Pour ce qui est de la douleur, un véritable pathos omniprésent se déploie au fil de ces sermons où le royaume pleure en Charles II son père, nourricier. Cette rhétorique est manifeste dans le titre du sermon du licenciado Bernabé Cascarra Manzano de Soler, curé de la paroisse de Nuestra Señora de Los Ángeles à Pedrola, sur les terres du duc de Villahermosa. Il s'agit naturellement d'un auteur absolument inconnu et qui le restera. Le titre est le suivant. Desgracia dichosa, desdicha con dicha, desconsuelo con consuelo. Lamentación de España en la muerte de su gran monarca Carlos II de Austria y consuelo universal en el ascenso y elección del gran Felipe V. Que Dios guarde. Le paradoxe d'une bonne mauvaise nouvelle, d'une consolation inconsolable, rappelle la Felix culpa, qui décrit le péché originel issu de la chute d'Adam comme une faute heureuse en ce qu'elle a donné à l'humanité un rédempteur. Cette formule, Felix culpa, est chanté par le diacre à l'ouverture de la vigile pascale dans ce qu'on appelle communément l'exultet. Je vous donne la traduction en français. « Ô heureuse faute qui nous valut un tel sauveur !» À la faveur d'un sermon prononcé dans une modeste ville d'Aragon, les fidèles sont amenés à passer de la nuit à la lumière, de la mort de Charles II à l'exaltation de Philippe V. Certes, ce mouvement de la pensée est bien conforme au principe même de la monarchie tel qu'il est contenu dans la phrase traditionnellement prononcée par le premier duc père de France lors de l'inhumation du roi dans la basilique de Saint-Denis. Le roi est mort, vive le roi. Le principe de la dynastie est là, naturellement. Oui. Donc il n'y a rien d'équivalent dans le cérémonial funèbre des Habsbourg, mais le principe de la succession dynastique est bien le même. Ici, la continuité de la monarchie, brisée par l'absence de successeur, est le fait de la providence. Et c'est en cela qu'elle est célébrée et remerciée dans les sermons. C'est par exemple le leitmotiv d'une oraison prononcée le 17 décembre 1700 dans un lieu emblématique de la ville de Madrid, le couvent de patronage royal de Santo Domingo el Real. Le prédicateur avait choisi pour aimanter la méditation le verset de l'Ecclésiaste, que je cite en français, « Le soleil se lève et le soleil s'en va, il se hâte vers son lieu et là il se lève. » Le premier mouvement évoque la naissance de Charles II, le soleil se lève, le deuxième sa mort, et le soleil s'en va, et son enterrement à l'Escurial, mais son nouveau lever, et là il se lève, n'est-ce pas? Et cette fois-ci celui du tout jeune duc d'Anjou. Cette renaissance qui fait penser au phénix trouve peut-être son expression la plus politique dans une autre figuration biblique du soleil tirée cette fois-ci de la prophétie de Malachie. C'est le soleil de justice, sol justiciae, dont il est fait mention dans la liturgie catholique du temps de l'Avent, comme la figure du Christ qui va naître et venir parmi les hommes. Même si la mort de Charles II intervient un mois avant la fin de l'année liturgique, c'est-à-dire que Charles II est mort le jour de la Toussaint, les prédicateurs se sont arrangés pour inclure dans leurs oraisons l'éclat du soleil de justice, succédant à la nuit funèbre, pour rendre un premier hommage au nouveau roi, Philippe d'Anjou. Philippe d'Anjou est donc comme le soleil de justice, cet astre qui se lève et dont le règne verra s'établir l'équité et la reconnaissance des mérites. C'est ainsi du moins que le souhaite un des prédicateurs, Bernabé Cascarra, à la fin de son sermon, dans une adresse qui s'adresse une adresse au roi lui-même. Et je vais le lire. Pensez que Cela n'a rien à voir, me semble-t-il, avec la problématique de l'utilité sociale du sujet. C'est une période un peu antérieure. Voilà ce que dit Cascara en s'adressant au futur Philippe V. « El remedio de los súbditos es oírles el rey, de quien depende el favor de su justicia, para que el que ha servido muchos años al rey y el que ha gastado muchos años en las tareas literarias tenga el premio. El primer memorial que despachó Salomón fue el de unas pobres mujeres que pleiteaban la propiedad de un hijo, porque la más noble acción de un rey es favorecer con especial providencia las causas y pretensiones de los pobres, porque no sólo inventó los premios la providencia, señor, para coronas, sino para incentivos. Ni hubiera soldados en las campañas, ni doctos en las escuelas, si no se tributase culto al altar del premio. Quand les prédicateurs ont recours à l'image du soleil, c'est surtout pour signifier la mort de Charles II. Il s'agit de l'astre et de sa course apparente dans le ciel, mais cette métaphore du déclin qu'on retrouve déjà dans les modèles de panégyrique de l'Antiquité pour saluer la mort du prince vient se compliquer dans le cas qui nous intéresse de tout un réseau de métaphores bibliques que les prédicateurs sollicitent en puisant dans les concordances et les répertoires. À peu de frais et avec une plus ou moins grande adresse, ils utilisent cette érudition pour l'appliquer au monarque. Certaines sont très convenues et se répètent à satiété sous la plume des prédicateurs. D'autres sont à l'origine d'une vision macabre de la fin du règne de Charles II. Témoin cette exégèse du Cantique 103, par laquelle Bernardino de Madrid, qui est un prédicateur royal, donc c'est-à-dire le haut du panier parmi les prédicateurs, qui est de l'ordre des Capucins, entend montrer que l'attrait que Charles II avait pour la résidence royale de l'Escurial. Il y allait sans doute pour la chasse, mais c'est aussi parce qu'on y avait construit le repos définitif des rois d'Espagne, leur tombe, le Panthéon qui avait été inauguré par Philippe IV, son père. Voilà ce que Bernardino de Madrid écrit. Puso Dios delante de los ojos a nuestro esclarecido Carlos las tinieblas de muchos trabajos con que le ejercitó. Y al ver estas tinieblas, estas mortificaciones, que son unas como pequeñas muertes, conoció su ocaso, conoció su fin. Sabe el sol a dónde ha de encaminar su curso. Parece que lo supo nuestro rey, pues con una suma propensión se inclinó siempre al Escorial, donde tenía su sepulcro. Tanto le amaba que parecía tener ya en él depositado el corazón. Si el sol de este mundo grande es corazón del cielo, como dijo Ateneo, el corazón del hombre será en el mundo menor lo que es en el cielo el sol. El sol, corazón del cielo, conoce su ocaso. No es mucho, pues, que el corazón inteligente de Carlos conociese su ocaso como el sol, y más cuando se vio tan cercado de tinieblas. Tout s'assombrit en cette fin de règne. La tonalité dominante des sermons funèbres reflète tout d'abord le climat des derniers mois de la vie du roi. Une mort attendue, c'est une mort attendue et redoutée, et singulièrement à Madrid. Imaginons une capitale qui ne devait pas atteindre 150 000 habitants, une ville de fonctionnaires et de nobles qui vont quotidiennement de la Bilia à la Corte, une ville de couvents que les rois d'Espagne fréquentent assidûment. Rien n'échappe au regard des madrilènes et le clergé se fait, par le biais des prières, les neuvaines, commandées pour le rétablissement de la santé du roi, le relais de ces mauvaises nouvelles. C'est ce climat qui se retrouvera par la suite dans tous les sermons publiés en Espagne, rivalisant dans le macabre. Ayant peu à exploiter pour donner une image flatteuse du roi en activité, on insistera donc sur ses malheurs privés, sa longue préparation à la mort, on peindra au besoin cette mort pathétique et édifiante. Bien plus, on cherchera à culpabiliser les sujets en leur montrant la longue suite de mortifications et de sacrifices qu'ont été les 39 ans d'existence du roi. À le voir tant souffrir, les Espagnols devaient se repentir de leurs propres péchés. Mais tous les prédicateurs ont conscience qu'il est difficile de faire un éloge appuyé de Charles II et de son règne quand on connaît sa personnalité et l'état de prostration du royaume à sa mort. Un homme à l'intelligence médiocre, peu intéressé à la conduite des affaires, médiocre en tout, je dirais, même dans ses vices. Un royaume amputé par les conquêtes de Louis XIV, miné par une récession durable, même si la conjoncture économique des dernières années n'est pas aussi défavorable. Rien, en tout cas, ne permet de dresser un portrait élogieux de l'homme et de son temps. Il faut ajouter enfin, et c'est le plus grave, l'absence de succession qui assombrit définitivement le règne. L'annonce d'un successeur providentiel permet sans doute de terminer les sermons sur une note d'espoir, mais l'accueil d'un rejeton de la dynastie historiquement la plus hostile aux Habsbourg ne se fait pas sans prudence ni réticence. Le mieux est de voir et d'attendre. Sur quoi les prédicateurs feront-ils donc l'éloge de Charles II? À défaut de pouvoir célébrer un roi qui prendrait ses leçons sur les modèles bibliques du roi David, du roi Salomon, ou encore de Josué, le général des Hébreux, à qui même le soleil obéit, le prédicateur n'a pas d'autre ressource que de recentrer son éloge sur les vertus chrétiennes de Charles II, qui sont difficilement les vertus d'un gouvernant. Ici, l'influence du modèle hagiographique est nette, et l'on voit Charles II nimbé des vertus de l'humilité, de la charité et de la chasteté. On prend soin de distinguer la vertu publique des manifestations publiques où le roi retrouve en quelque sorte son éclat. En public, la dignité royale impose une grande distance entre la personne du roi et les sujets. Mais en privé, cette distance est réduite, et la grandeur de nature du roi, comme dirait Pascal, n'efface pas l'humilité du cœur. Bernardino de Madrid, qui a reçu les confidences du dernier confesseur du roi, le père Carbonel, écrit à propos de son humilité. « Era más noble virtud, esta más noble virtud reinaba en el corazón de nuestro amantísimo príncipe. No porque en la verdad no fuese humilde, sino es porque siendo rey, en la verdad era grande y elevado su empleo. Pero el amor le obligaba a que se humillase y midiese con la pequeñez de los que trataba. En lo público era serio y atendía a las etiquetas de palacio. En lo secreto era liano y las dispensaba con debísima causa. Tal vez mandaba sentar a los criados no mayores, cuidaba de su conveniencia en lo necesario, como pudiera un padre de la de un hijo. De corazón dice Cristo que es humilde. La dernière citation, qui est une citation du Christ, hein, discete a me quia mitis sum humilis corde, hein, écoutez-moi parce que je suis doux de cœur, hein, et humble. Cette citation renvoie au Christ, qui est le premier modèle à imiter pour un chrétien, mais nous allons voir tout de suite que cette comparaison doit être proportionnée aux forces et au caractère du roi dont on fait l'éloge. On comparera donc Charles II avec le Christ doux et souffrant, mais certainement pas avec le Pantocrator. Au rebours des images du Christ roi de l'univers, revenant dans la gloire pour voir se plier les genoux de tous les rois de la terre, et voir ces derniers lui remettre les insignes de la royauté lors de la parousie, c'est ici le Christ passionnel, le Christ serviteur souffrant qui est mis en avant. On conçoit aisément cette identification quand on connaît la santé précaire du roi qui à plusieurs reprises a fait craindre pour sa vie. Il y a donc une sorte de parallèle entre les douleurs et les mortifications de Charles II à l'agonie et celle du Christ de la Passion. Le pathos va se concentrer d'ailleurs sur les derniers jours de la vie du roi. C'est dans ce contexte qu'interviennent les plus importantes manifestations de la piété de Charles II. Le souverain se sépare de son épouse, muni des sacrements de l'Église catholique. C'est sous la forme d'une prosopopée étonnante, exceptionnelle d'ailleurs dans les sermons, que un prédicateur, que vous allez aussi rapidement oublier, Jeronimo Belluis, par exemple, nous fait assister à la confession du roi avant de recevoir le viatique. Cette confession publique est un artifice visant à dédouaner le chrétien repentant, c'est-à-dire Charles II, des défaillances publiques du roi qu'il est. Pensez aux deux figures du roi, hein, n'est-ce pas? Voilà ce que, dans cette prosopopée, le prédicateur fait dire à Charles II. « Seigneur, il s'adresse au Christ. Seigneur, dijo en alta voz. » Ce qui est un peu incompatible avec un agonisant. Enfin, « Seigneur, dijo en alta voz. Superior ha sido el peso de esta monarquía a las cortas fuerzas de mi flaqueza. Muchas y graves resoluciones habéis fiado de mi mano, pero por el paso en que estoy, para mayor descargo de mi conciencia, protesto ante vos una y mil veces que jamás goberné las plumas de mis reales decretos sin que precediesen las consultas de mis ministros. Bien puede haber salido la ejecución de mi gobierno errada, pero es cierto que mi intención siempre ha sido recta. Si tal vez me he ladeado a la clemencia, me he inclinado a la clemencia, ha sido con dictamen y bendición de su justicia. No es esto disculpar como hombre el número de mis pecados, sino justificar como rey el celo de mis decretos. Y así, si por omisión mía se ha visto la justicia injustamente deteriorada, o la piedad nimiamente excedida, os pido una y mil veces perdón. Perdonadme, Señor, perdonadme. La cause étant entendue par le Christ qui a institué les sacrements de son Église, on voit mal que ce pardon divin ne soit pas accordé, et l'on comprend du même coup qu'en s'accusant d'une excessive piété qui le retenait loin des affaires de l'État ou contredisait la justice des hommes, le roi charge en fait le prédicateur d'intercéder pour lui. Auprès de qui ? Auprès de la postérité, assurément. Sans trop l'avouer, Belvis, le prédicateur, pointe du doigt un trait de la personnalité du roi qui s'accommodait très bien de la culture et du sentiment religieux qui prévalait en Espagne depuis Philippe III. Piété excessive, alimentée au fil de l'année et des événements, clé de lecture de ces événements, piété prompte à voir partout des signes de la Providence et d'une élection particulière de la monarchie espagnole. Nous allons voir maintenant un des éléments de cette piété toute espagnole, en dépit de son nom, la fameuse Pietas austriaca. Je vous renvoie pour cela un ouvrage de notre collègue et ami Alain Begg. Nous allons voir donc quelques aspects de cette Pietas. En un peu plus d'un siècle, la cour des Habsbourg d'Espagne s'est faite la championne de la défense et de la vénération constante et multiforme de l'Eucharistie. C'est cet élément identitaire de la monarchie espagnole qu'il convient de décrire maintenant et d'expliquer. Commençons par les fêtes. Nous en dégagerons deux. 1. L'accompagnement royal du viatique. 2. La vénération du Saint-Sacrement dans la chapelle royale de Madrid sous Charles II. D'autres spécialistes ont exposé avec des conclusions concordantes des manifestations artistiques de cette pietas concernant l'Eucharistie. En particulier le tableau intitulé « La adoración de la Sagrada Forma de Gorkum » du peintre Claudio Coello, présenté à l'Escurial en octobre 1684, et la fresque qui orne le plafond du grand escalier du monastère, intitulée « La Gloria de la Monarquía Hispánica » du peintre Luca Giordano, qui elle est terminée en 1693. La plupart des oraisons funèbres font état d'un événement de la vie de Charles II qui eut lieu le 20 janvier 1685, au retour de la chasse, du côté de la Florida, et dont le modèle remonte au fondateur de la dynastie des Habsbourg, le comte Rodolphe. Le prédicateur Benito Martinez raconte que le roi était sorti de son carrosse pour s'agenouiller dans la boue au passage du Saint-Sacrement qu'on apportait à un pauvre moribond. Le texte de Benito Martinez dit la chose suivante. « Su rendida piedad con el Santísimo, bien clara la mostró aquel arrojarse del coche por servirle, bien sabido de todos es el caso, sin reparar en enlodarse los pies, por seguir obsequioso a su majestad. Obsequioso a su majestad, sa majesté, il s'agit du Christ, nous sommes d'accord. Un autre prédicateur va plus loin en liant nettement le geste de Charles II à la dynastie dont il est le descendant. La famille des Habsbourg est donc investie de la tâche de perpétuer cette vénération de père en fils jusqu'à Charles II. Voilà le texte. En esa parte, c'est-à-dire la vénération du viatique dans des circonstances de tous les jours, en esta parte no tiene la Casa Ilustre de Austria su principal asiento, sus estados y dominio. Esta no fue y ha de ser la que le ha de tributar mayor adoración y culto. Dígalo aquella acción gloriosa que ejercitó con esta soberana majestad el conde de Habsburgo, ilustrísimo progenitor de esta real e imperial casa que es tan notoria a todo el orbe. Acreditóle la nunca bastantemente alabada que en estos nuestros días ha hecho repetidas veces nuestro piadosísimo monarca Carlos II, que Dios guarde, el cual, encontrando a un sacerdote que llevaba a pie el santísimo viático, se apeó de la carroza y haciendo subir en ella al sacerdote y monacillo que le acompañaba, fue a pie al lado del estribo, sirviendo y cortejando al Señor grande, le Christ, que llevaba al corto albergue del enfermo y después a la iglesia, dejando admirados a los que se habían hallado presentes y a todos edificados y gozosísimos de haber alcanzado un príncipe tan sumamente piadoso. ce respect dévot pour le biatique, qu'il faut lire comme la présence compatissante du Christ dans le quotidien de la vie des Espagnols, est prolongée par la présence perpétuelle, cette fois-ci, dans la chapelle royale du Saint-Sacrement. Ici encore, cette dévotion est le fruit d'une élection providentielle ou d'une dilection divine pour la famille des Habsbourg. Celle-ci ne s'est pas ménagée, au dire d'un prédicateur, pour faire entrer le Christ dans sa maison. Pues, oigan que uno de los primeros cuidados del señor Carlos V fue ensanchar la capilla de su real palacio y que fue a fin de prevenir más autorizado el hospedaje a su sacramentado dueño, el sacramentado dueño, le maître de maison, sacramentel, c'est le Christ, d'accord? Lo da a entender que el señor Felipe II, su hijo, luego que le sucedió, solicitó al instante de la sede apostólica la gracia de poder traer a dicha capilla el sacramento. Ganó confirmación de este devoto indulto, el señor indulto, parce que dans un lieu non religieux, en principe, on ne peut pas avoir le Saint-Sacrement. Il faut donc obtenir un adulte de l'ordinaire. Et dans ce cas-là, c'était le pape. El indulto el señor Felipe III, pero ni uno ni otro consiguieron traer de hecho a su majestad, porque esta dicha la reservaba Dios para el señor Felipe IV, en cuyo reinado logró esta joya, la capilla real, en donde se conserva desde entonces, así en las 40 horas de cada mes, como en las demás fiestas del año, con la majestuosa, riquísima y asistida veneración que todos saben. Las 40 horas, c'est une autre cérémonie de dévotion sur laquelle je ne peux pas vous en parler pour le moment, ce sera long, je sais pas. Pour expliquer cette vénération, on oserait les mots d'attirance ou d'aimantation. Le même prédicateur n'hésite pas à recourir à une sorte de physique qualitative qui découvre une sympathie occulte et surnaturelle entre le Saint-Sacrement et la dynastie des Habsbourg, dont est issu Charles II. Je lis le passage. « No es cosa rara que no habiendo venido Cristo sacramentado al Palacio de España en tantos siglos, luego que vio a estos señores dueños de él, al instante viniese, o por lo menos tratase de venir. » C'est-à-dire que le roi catholique ne pouvait pas obtenir la présence du Christ sous la forme sacramentelle. Il a fallu que ce soit les Habsbourg qui règnent pour qu'ils puissent, qu'ils daignent entrer dans la maison. No fuera muy voluntario discurrir que lo hizo así su majestad, Jesucristo, o porque sabía que le habían de estimar y venerar más que todos los otros estos señores reyes, o por andarle tras estos señores el sacramento, como por simpatía sobrenatural, que hallase cuenta de un señor conde Erchimbaldo de esta real familia, que negándole un día la hostia consagrada a un sacerdote, se le voló a la sacerdote de las manos, su majestad, y se fue a la boca de dicho caballero, con admiración de cuantos vieron el prodigio, como a buscar impaciente la amada compañía y devoto hospedaje de su corazón. On pourrait sourire ou s'inquiéter de ces croyances alimentées par des légendes qui semblent bien superstitieuses si les faits historiques ne démontraient pas que le culte du Saint-Sacrement repose sur la foi établie et indiscutable alors dans le monde catholique, que l'Eucharistie est investie de pouvoirs efficaces, capables d'agir sur la réalité et singulièrement dans les cœurs. Pour vous donner un exemple de l'importance de l'Eucharistie dans la vie publique, cette fois-ci, de l'Espagne du temps, je me référerai à un événement que vous connaissez sans doute, qui est El Motín de los Gatos. D'accord ? C'est sous ce nom qu'est connue donc une révolte populaire qui eut lieu le 28 avril 1699 à Madrid et qui eut pour conséquence directe la chute du Premier ministre, Joaquín Álvarez de Toledo, le comte d'Oropesa, qui doit démissionner le 9 mai 1699. Au cours de cette journée, donc du 28 avril 1699, les émeutiers qui se sont soulevés à cause de la cherté du pain se sont transportés de la Plaza Mayor, qui fait office de marché, à la Plazuela de Santo Domingo, où se trouve la résidence du comte d'Oropesa. Pour calmer les esprits, des gens qui assiègent le palais, des prêtres, sont allés chercher dans l'église de Santo Domingo, tout proche, le Saint-Sacrement, pour le montrer aux émeutiers. Par la suite, le Saint-Sacrement de Santo Domingo est relayé par celui de la paroisse tout proche, qui est une paroisse populaire, la paroisse de San Martín, ce qui fait que nous avons à la fois l'Eucharistie conventuelle et l'Eucharistie populaire qui se retrouvent pour calmer ses esprits. Il ne s'agit naturellement pas d'une procession, comme on en fait pour le jour de la fête Dieu, mais d'une sorte d'ostension assurée par les prêtres, aidés d'acolytes chargés de protéger l'ostensoire contre les mouvements. Pourquoi donc solliciter cette présence au cœur de la violence ? La présence du sacré, sous quelque forme que ce soit, en impose assez aux esprits de l'époque pour leur intimer le calme. Mais il ne faut pas négliger une explication plus profonde qui, tout en demeurant imparfaitement connue des acteurs en présence, le petit peuple de Madrid, est actualisée alors par le maître d'œuvre de ce dispositif qui est le clergé. En effet, comme le résume génialement saint Augustin, et là je fais de la théologie, l'Eucharistie, comme il dit, c'est le sacrement de ce que nous sommes. C'est le sacrement de ce que nous sommes. C'est le sacrement des fidèles, le sacrement de ce qu'ils deviennent quand ils communient au corps du Christ, c'est-à-dire ce corps lui-même, l'amour qui s'est fait chair, si bien qu'en montrant l'hostie consacrée, on représente aux émeutiers la grande distance qui sépare leur comportement de celui de la communion et de la réconciliation, de l'amour fraternel dans le Christ que l'on attend d'eux. Le désordre et la violence ne peuvent prévaloir devant le gage de l'unité parfaite qui est manifestée par le Saint-Sacrement. Encore une fois, le geste du clergé n'est qu'imparfaitement compris dans sa signification théologique, mais il est bien, bel et bien pensé et orchestré comme un dispositif efficace de rétablissement de l'ordre dans les circonstances données. C'est cette dimension d'unité et de paix que relèvent naturellement tous les théologiens et qui sont encore manifestés, au temps de Charles II. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les effets, je résume, que les effets attendus de la communion au corps du Christ pour le fidèle, c'est une sorte d'apaisement, je ne dirais pas d'ataraxia, on est largement au-dessus de cela, il s'agit en fait d'une sorte de guérison spirituelle, qui, nous guérit des tentations que nous lance le monde, le diable, d'accord, et le corps, mais qu'il faut en faire son... À partir du moment où cette communion est étendue à tous les fidèles, il faut en faire l'extrapolation et considérer que l'Eucharistie en soi guérit les maux du royaume. D'accord ? Il reste donc à l'Espagne réunie à l'occasion de la mort de son roi de réaffirmer et de maintenir la concorde, de concrétiser l'unité que l'Eucharistie symbolise. Elle le fera en restant fidèle à la foi et aux dévotions de son roi et en ne perdant pas de vue non plus que le corps mystique de l'Église est aussi un corps réel, le corps de la nation, dont l'institution monarchique est la tête. La solidité de ce modèle, la vitalité de ses représentations sont manifestes dans les textes circonstanciels que sont les oraisons funèbres, véritable caisse de résonance de la culture baroque, de ses inquiétudes et de ses espérances. Dans l'introduction, nous défendions l'idée d'un prolongement durable du baroque dans le XVIIIe siècle, au niveau stylistique, au niveau littéraire. Il faut d'abord rappeler que la guerre de succession a interrompu pour 20 ans une évolution lente et continue de l'Espagne au diapason des changements lents et réguliers du reste de l'Europe. Mais indépendamment de cette longue crise qui occupe et sacrifie au moins une génération, il faut reconnaître que l'oraison funèbre à l'époque de Charles II manifeste à la fois le summum d'une spiritualité baroque inaugurée par les oraisons funèbres de Geronimo de Florencia et d'Hortensio Paravicino et aussi leur incontournable déclin. Le discours doloriste et providentialiste ne pourra plus être assumé par la monarchie qui s'installe. D'autre part, le néo-gongorisme qui caractérise le style de ces oraisons funèbres, j'espère que vous en avez vu des traces en écoutant ce que je vous ai lu, survivra longtemps à la spiritualité qu'elle a portée. Il faut attendre, à notre sens, les premières manifestations du néoclassicisme pour que le baroque boursouflé et érudit disparaisse de la chair. L'un des premiers réformateurs du style de l'éloquence est Gregorio Mayans y Siscar, qui rédige entre 1725 et 1730 des Ensayos Oratorios, où, d'une part, il tord le cou aux excès de la rhétorique et aux obscurités de l'écriture baroque, et d'autre part, donne à l'éloquence sacrée les mêmes règles qu'à l'éloquence tout court. Il y a une sorte de déspiritualisation de l'oraison. Le résultat de cette synthèse est son ouvrage en forme de dialogue, El Orador Cristiano, de 1733. À la suite de Mayence, on verra les orateurs se mettre à cette école. Ce qui s'annonce autour des années 1730, ce qui est manifeste lors des funérailles de Philippe V en 1746, c'est aussi et surtout un changement dans la pensée et dans les mœurs de la société civile, plus que dans les pratiques littéraires. Face à l'oraison funèbre de Philippe V que le moine bénédictin Bernardo Bella prononce au nom de l'université de Salamanque, ce qui est tout à fait normal, tout à fait naturel qu'une institution aussi prestigieuse le fasse. Face à cette oraison à l'ancienne prononcée donc à Salamanque, on trouve un jésuite, le père Nicolas de Estrada, prononcer une oraison funèbre au nom de la première société savante créée en Espagne dans les derniers mois du règne de Charles II. Il s'agit de la Regia Sociedad de Medicina y de Más Ciencias de Sevilla. Le corps civil de la société, par le biais de son élite intellectuelle et scientifique, se charge de prononcer l'oraison funèbre de Philippe V. D'accord ? Donc la société civile va plus que perpétuer le genre de l'oraison, elle va se l'approprier. Et les perdants, à terme, ce sera l'oraison funèbre des clercs, des religieux. D'accord ? En effet, en honorant la mort d'un monarque éclairé, l'éloquence sacrée salue d'abord le soldat en Philippe V, le soldat qui a payé de sa personne pour conserver sa monarchie intacte. Immédiatement après, ce sont les vertus civiles et civiques du monarque qui sont mises à l'honneur. Voilà un roi à qui le royaume s'égrait d'avoir rétabli la paix et d'avoir assuré la prospérité des Espagnols en créant les conditions morales et matérielles de leur bonheur. L'idée de bonheur humain, donc, éclipse en partie les considérations spirituelles, le bonheur de l'au-delà, le salut des âmes et la promesse de l'avènement du royaume de Dieu. On abandonne donc ou on met sous silence la piété d'un roi, on voit des valeurs comme la justice et l'équité se substituer progressivement à la charité chrétienne. Ce phénomène de sécularisation permet, selon nous, et dans les limites des considérations touchant l'éloquence sacrée, d'inscrire à partir de 1730-1740 l'Espagne, qui va se reconstruire à partir du traité d'Utrecht, réellement dans le siècle des Lumières. Merci.